s'il vous plaît, ouvrez vos Bibles dans Job chapitre 42. Job chapitre 42. Nous allons lire les 6 premiers versets de ce chapitre. Job 42, verset 1 au verset 6. Je voudrais vous rappeler que tout ce que nous lisons ici, que ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu. Job 42, verset 1 au verset 6. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de mes veilles qui me dépassent et que je ne connais, conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. » Prions ensemble. Notre Père, comme nous venons à l'étude de ta parole, nous demandons que ton esprit nous aide. Nous savons que tu utilises ta parole, pas ton esprit, pour faire de grandes choses. Que tu nous convainc du péché. Forme-nous de marcher, à marcher sur la voie de la justice. Illumine notre voie et que nous puissions avoir la foi pour glorifier ton Fils dans notre, au milieu de nous. Et que nos pensées soient tournées vers lui, que nos cœurs soient tournés vers lui. Comme nous venons à l'étude de ta parole maintenant. Et nous demandons tout cela au nom de Jésus. Amen. Une des vérités indéniables des Écritures, c'est que, encore et encore, nous sommes confrontés à la réalité que la croissance dans la grâce, la croissance dans la vie à l'image de Christ, la croissance dans la sainteté, souvent, vient à travers le véhicule de la souffrance. Nous aurions souhaité qu'il n'en soit pas ainsi, que nous puissions apprendre beaucoup de choses au moment où il y a l'aisance et la tranquillité, mais la Bible nous dit que nous passons par les situations difficiles. C'est vrai que souvent, le Seigneur utilise le véhicule de la souffrance dans la vie de ses enfants pour les former et les enseigner. Quand vous voyez la Bible parle beaucoup concernant la souffrance. Il y a beaucoup de choses dans les Écritures qui parlent de la souffrance. Nous allons voir les enseignements spécifiques. La Bible dit que la souffrance doit être espérée dans la vie, que c'est une chose normale dans le monde qui est déchu parce que nous avons commis le péché et que le monde est sous le coup des conséquences des péchés d'Adam et Ève. Nous devons souffrir. La Bible parle de l'Ecclésiaste chapitre 3 qui parle des temps des Écritures, des temps de la vie de l'homme. Il y a des temps pour pleurer, il y a des temps pour rire, il y a également des temps pour être endeuillé et des temps pour se réjouir. Il y aura des moments dans la vie du chrétien, dans la vie où il y aura des pleurs, des souffrances, il y a des choses qui ne sont pas attendues, il y a des deuils qui ne sont pas appropriés, mais c'est une vérité indéniable. Quand on vient dans la vie de chrétien, les chrétiens doivent espérer connaître les souffrances. Pierre dit qu'il ne faut pas être étonné des souffrances que vous devez avoir. Ce n'est pas une chose étrange. Les chrétiens souffrent à travers le monde entier. Ils ne doivent pas voir ces choses comme des choses qui les choquent. Comme des chrétiens, nous devons comprendre que la Bible dit que l'apôtre Paul dit que si nous, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et donc, la souffrance fait partie du monde déchu et également il y a des souffrances particulières que nous devons espérer en tant que des chrétiens. Parfois, c'est le cas, les gens révèlent la vie de chrétien comme une vie qui n'a pas de souffrance, qui continue de joie en joie, il n'y a pas de difficulté. Mais la Bible n'enseigne pas cela. La Bible dit une autre chose différente. La Bible dit que la souffrance que le croyant doit espérer connaître, cela fait beaucoup de choses. Mais une des choses que cela fait, cela montre la réalité de notre foi. La réalité de notre foi. Nous avons vu cela dans la vie de plusieurs personnes, les gens qui ont professé leur foi, en Christ, quand vous les voyez qui supportent la souffrance, vous allez comprendre que la foi est réelle, leur foi est réelle. Et je crois que certains d'entre vous ont été impactés par cela. Vous connaissez certaines personnes qui ont souffert en Christ et qui ont connu cela et d'une manière joyeuse, ils ont continué cela. C'est vraiment profond. Mais Pierre dit que notre souffrance, que nous souffrons pour un peu de temps, pour que nous puissions... il dit, si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. C'est pour éprouver l'authenticité de votre foi. Une autre foi, une autre chose que nous apprenons de la vie du croyant, c'est pour évaluer l'authenticité de sa foi, mais c'est également une manière de démontrer la puissance de Dieu sur notre vie. Donc la déclaration que l'apôtre Paul donne, que il y a des difficultés quand il avait une charge dans le corps. La Bible dit, il a prié 3 fois, mais Dieu n'a pas répondu. Dieu a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance est démontrée dans ta faiblesse. La souffrance démontre la puissance de Dieu en nous. Nous savons également que Dieu est avec nous au moment de nos souffrances. Si nous sommes des chrétiens, Esaïe a dit que nous, lorsque nous passons par le feu, il est avec nous. Lorsque nous passons par les rivières, elles ne nous submergeront point. Lorsque nous passons par le feu ne nous consumera pas. Et le psalmiste dit, le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Et c'est la raison pour laquelle, quand nous venons dans le Nouveau Testament, et que nous lisons la description du Nouveau Testament sur la souffrance, c'est pour toutes ces choses que Jacques peut dire qu'il faut vous réjouir, les frères, lorsque vous passez par les épreuves, parce que vous savez que l'épreuve de votre foi peut produire la persévérance. Quand vous lisez les Écritures, je crois que si vous regardez honnêtement votre vie, vous vous rendez compte que les défis que vous connaissez, les souffrances auxquelles vous faites face, ne sont pas des choses étranges dans l'histoire de la vie de la Bible. Les souffrances-là ont déjà été utilisées par Dieu pour former, pour enseigner. Quand vous voyez Malcolm Margaret, un journaliste, un philosophe du XXe siècle en Angleterre, il réfléchissait à son anniversaire. Et il avait un degré d'expérience pendant les 75 ans. Il a voyagé et il a dit, contrairement à ce que on pouvait espérer, il dit, je vois les expériences pour comprendre qu'il y a des douleurs, des difficultés. Il y a une satisfaction particulière. Il continue à dire, peut-être que c'est une exagération, mais c'est important de savoir de ce que la Bible dit. Il dit, je peux dire avec toute la vérité que tout ce que j'ai appris au cours de mes 75 ans sur la terre, tout ce qui m'a renforcé dans la vie, c'est à travers les afflictions et non la joie, que ce soit des choses que j'ai poursuivies ou des choses que j'ai obtenues. Nous pouvons dire toutes ces choses de la souffrance et nous savons que toutes ces choses sont vraies. Toutefois, nous voyons dans la Bible qu'il y a un grand mystère concernant la souffrance que nous subissons. La Bible nous donne plusieurs principes, plusieurs enseignements concernant la souffrance. Et il pose des questions spécifiques. Pourquoi vous et moi, nous connaissons les souffrances que nous subissons? C'est que, certainement que le mystère est déclaré dans un grand détail. Et Job commence, Job est révélé au début de ce chapitre comme quelqu'un qui est pur, qui craint l'Éternel. Mais quand le Seigneur parlait de Job, il a dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il est pur, intègre devant moi. Mais le Satan a dit non, si tu me donnes la permission pour que je puisse ôter tout ce qu'il a, il va te maudire. Mais Job n'a pas maudit Dieu, même lorsque tu lui as été pris. Mais le Satan a dit non, la raison pour laquelle il n'a pas maudit, c'est que je n'ai pas touché à sa vie, à sa santé. Et Dieu a dit, tu peux le toucher. Quand il a fait cela, il n'y avait rien, il n'a pas maudit Dieu. Et il avait perdu tout. Et comme vous le savez, le livre de Job est une série de dialogues entre Job, d'abord avec lui et ses trois amis qui avaient des explications différentes de ce que Job traverse. Mais Job a dit non, tout ce que vous avez dit c'est faux. Il a dit oui, c'est vrai que certaines choses que vous avez dit c'est la vérité. Mais il dit, Job savait que leur réponse n'était pas correcte. C'était des allers-retours entre Job et ses amis. Et à travers le livre de Job, dans ce contexte de dialogue entre lui et ses amis, a fait des déclarations remarquables. Il a maintenu ses amis autour de lui, mais il a dit quelque chose comme ceci. Job, chapitre 19, il dit ça, en ce qui me concerne, il a perdu ses enfants et il a perdu également. Mais il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se relèvera le dernier sur la terre. Quand, verset 26, quand ma peau sera détruite, il se relèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Et au moment où il faisait ces déclarations merveilleuses de confiance en Dieu, il également a demandé que Dieu puisse se prononcer sur lui. C'est ça. Il a dit, si j'ai l'opportunité de poser à Dieu cette question, je voulais demander certaines réponses. Il y a des choses que je pouvais comprendre. Mais Job l'a fait dans Job chapitre 23. Il a dit, oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments, je connaîtrais ce qu'il peut avoir à répondre, je verrais ce qu'il peut avoir à me dire. Employerait-il toute sa force à me combattre? Ne daignerait-il pas au moins m'écouter? Ce serait un homme droit qui plaiderait avec lui et je serais pour toujours absous par mon juge. Dieu, Job a amené Dieu au tribunal et il voulait avoir des réponses. Et dans Job chapitre 40, Dieu, dans sa miséricorde, est apparu devant Job. Et vous savez que dans cette rencontre était différente de ce que Job espérait. Dieu a commencé en disant ceci, Job, s'interrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Et dans son instruction, ce n'est pas une instruction, parce que Dieu a commencé par poser des questions à Job, et Job même ne sait même pas à quoi penser d'abord. Je l'ai toujours dit, quand nous considérons cette session, c'est comme lorsque mes filles étaient plus petites, quand mes enfants, ma fille vient vers moi et dit, ah papa, je veux que tu m'enseignes les calculs. Je peux dire, je peux lui poser la question, est-ce que tu connais tes multiplications? Il dit, non, papa, je ne sais pas. Est-ce que tu sais comment est-ce qu'on peut faire la division? Il dit, non, je ne comprends pas cela. Est-ce que tu connais l'algèbre? Il dit, mais je vais lui poser la question. Pourquoi est-ce que je pose cette question pour lui demander cela? Je veux lui dire que les demandes, les exigences qu'elle fait, ce n'est pas approprié parce qu'elle-même, elle ne peut même pas répondre aux choses simples. Elle ne connaît pas les ABC, les petites choses, les choses, mais je lui enseigne des choses avancées. C'est ce que Dieu a fait avec Job. Job a dit que Dieu, je veux que tu me répondes, je veux t'amener au tribunal. Mais Dieu a dit, Job, je vais te poser juste quelques questions. Mais Job n'avait aucune réponse à donner à Dieu. Et donc, c'est ça qui nous amène à Job chapitre 42, le passage du jour. Après que Job a posé des questions à Dieu pour démontrer son ignorance, pour montrer qu'il ne connaît rien de questions qu'il pose et pour lesquelles il fait des réponses, Job finalement a parlé d'une manière très simple. Les six versets que nous avions lus dans Job chapitre 42, il dit ceci. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais d'abord que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. La première déclaration que Job a faite à la fin de tout cela, de sa souffrance, de ses dialogues avec ses amis, à la fin de cette réprimande de la part de Dieu, c'est l'esprit c'est d'exposer son ignorance concernant la création et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Souvent, les gens sont tentés à venir avec certaines notions, à venir avec certaines notions pour dire, ah, peut-être la raison pour laquelle je souffre, c'est que Dieu n'a plus le contrôle des choses de ma vie. Il y a certains qui disent qu'il y a des puissances qui travaillent dans le monde et que Dieu n'a pas peut-être une force assez élevée pour les contrôler. Peut-être que Dieu ne peut pas gagner tout le temps. Parfois, il peut perdre. Cette fois-ci, il a perdu. C'est la raison pour laquelle je souffre. Ce n'est pas ce que Job a dit. Job, c'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible enseigne que la souveraineté de Dieu, Dieu est souverain sur toutes choses. Et même au milieu des souffrances que Job traverse, pour les souffrances pour lesquelles il n'a aucune explication. Et il n'a pas d'explication donnée. Même dans les Écritures, c'est clair, lorsque le roi Salomon a dédié ce temple merveilleux à Dieu, au moment où il dédiait le temple, il a reconnu que le temple qui est joli, qui est beau, qui était impressif, comme c'était, si ce temple n'a même pas commencé à pouvoir démontrer la bonté de Dieu, il a dit que je sais que tu ne demeures pas dans un temple fait de mains d'un homme. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux et les cieux, combien moins. Il dit que tu ne peux pas demeurer dans la tente fait par un homme. Et le psalmiste dit que Dieu, tu es grand et tes bontés sont insondables. Dans Daniel chapitre 4, il y a le récit qui est donné de Nebuchadnezzar, ce grand roi, ce roi, ce leader politique et de l'armée, qui a eu un rêve, et dans son rêve, il a eu Dieu qui lui a prophétisé pour lui dire que il va chuter, il va manger de l'herbe comme les animaux. Et Daniel a interprété ce rêve, il a dit, Nebuchadnezzar, parce que tu es orgueilleux, Dieu va te juger, tu vas manger les herbes comme les animaux. Pendant 7 ans, tu vas être enlevé de ton trône. Et pendant 6 mois, Nebuchadnezzar a commencé par dire, ah, Babylone, cette grande Babylone, est-ce que c'est pas de mes mains que je l'ai construite? Et alors, Dieu a frappé Nebuchadnezzar, il est allé dans la bourse et il a mangé de l'herbe pendant 7 ans. Et à la fin de ces 7 ans, de la chute de Nebuchadnezzar, quand il est revenu dans ses sens, il a parlé de lui-même. Il a dit que j'ai retrouvé mes sens. Mais avant de dire qu'il a retrouvé ses sens, il a dit ceci de Dieu. Il dit, après le temps marqué par moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est la domination. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre et il n'y a personne qui résiste à ses mains et qui lui dise que fais-tu. Et la Bible dit dans le verset 36, en ce temps, la raison me revint. La première déclaration de Daniel, au moment de sa souffrance, Job également, au moment de sa souffrance, quand il a déclaré, il dit que Dieu est au contrôle de toutes choses, Dieu est souverain, et il ne peut pas permettre à ce qui n'est pas à son contrôle. Job n'avait aucune explication de pourquoi il souffrait, mais il dit que je sais que tu peux tout faire. La deuxième déclaration que Job a eu à faire vient dans le verset 3. Job 42, verset 3. C'est une déclaration pas de Dieu et de sa souveraineté, mais de sa propre compréhension, de sa limitation, de la compréhension de l'homme. Vous devez voir sérieusement la Bible, parce que ce que Job fait au début du verset 3 et le verset 4, il est en train de citer un autre passage de la Bible. Quand vous voyez votre Bible, vous allez voir dans le verset 3, il dit, quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins. Verset 4, il dit, écoute-moi, je parlerai, je t'interrogerai, tu m'instruiras. C'est important de le savoir parce que ce que Dieu est en train de faire, il est en train de répéter ce qu'il avait dit auparavant, ce que Dieu avait dit auparavant. Ce que il dit dans le verset 3, comme il répète ce que Dieu avait dit le concernant, il répétait cela. Le Dieu avait dit, qui est cette personne qui cache dans Job est en train d'affirmer que c'est moi. Je suis celui qui ne savait pas ce que je disais et qui posait des questions sur des choses qu'il ne pouvait pas comprendre. Et Job est en train de dire dans le verset 3 qu'il y a des limitations à ma compréhension. Je n'ai pas connu cela comme clairement auparavant, mais maintenant je vois ça clairement. C'est pourquoi au milieu du verset 3, il dit, c'est quelque chose que Dieu lui-même, Job lui-même a dit, c'est pourquoi quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Il dit, Job est en train de dire que c'est Dieu qui a le contrôle, qui a le contrôle de toutes choses. Et nous, en tant que des êtres humains, nous sommes limités dans notre habileté à comprendre la pensée de Dieu. Et un des versets que John Calvin a cité plus que tout autre verset, c'est Deutéronome 29, verset 29. Deutéronome 29, le verset 29, il dit que les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Ce qu'il dit dans Deutéronome chapitre 29, c'est qu'il y a des choses cachées dans la vie, il y a des choses que Dieu n'a pas enseignées, que la Bible nous enseigne, ce que la Bible nous enseigne, c'est à nous. Il y a des choses que Dieu nous a données, les paroles de ces livres sont pour nous et pour nos enfants, pour que nous puissions les observer. Dieu a révélé toutes choses dont nous avons besoin dans sa parole, mais il y a également des choses qu'il n'a pas révélées, il y a des choses cachées. J'étais choqué par ceci, il y a de cela 12 ans, il y a une semaine dans ma vie où j'ai eu deux appel téléphonique qui était pratiquement similaire. Il y avait un autre qui avait un garçon qui avait pratiquement 12 ans et il m'a dit, ah, c'est très mauvais ce garçon et il est en train de souffrir et les docteurs ne pouvaient rien faire. Ce qu'ils ont donné comme explication, c'est de dire que c'est ce cancer qui évolue, je ne sais pas ce qui va arriver. On parle de quelques semaines qu'il a à vivre encore, de quelques mois. Mais un autre ami m'a appelé également, il a appelé en réalité ma femme, il a dit, notre enfant, notre fils a ce problème, il a une tumeur dans le cerveau, les médecins ne savent pas ce qu'il faut faire. Et ce qui m'a marqué de cela, c'est que ces deux informations qui m'ont été données dans la même semaine, je ne savais que faire. Mais après 3 semaines, celui qui avait le cancer avait une situation plus difficile. Le garçon là était décédé de ce cancer. Mais l'autre enfant qui avait la tumeur au niveau du cerveau était totalement guéri. Les médecins ont trouvé que c'était une chose très simple qu'on pouvait traiter facilement. Ils ont traité cela et l'autre enfant était guéri. Mais qui peut expliquer cela? Pourquoi celui-ci est mort et l'autre a survécu? Pourquoi? Qui peut expliquer cela? Job a reconnu que les voies de Dieu ne sont pas nos voies et nous ne pouvons pas les comprendre. Il y a des choses cachées. Paul dit que nous voyons comme dans un miroir. Nous ne pouvons pas comprendre comme Job avait plus que ses amis. Le Seigneur a dit cela très clairement. C'est comme Paul dit aujourd'hui, c'est comme dans un miroir, mais d'une manière obscure. Un temps viendra où nous comprendrons très clairement. C'est une des leçons que nous apprenons, que la souffrance nous enseigne. Il y a des choses que nous ne savons pas. Il y a des choses qui constituent des mystères dans nos vies que Dieu ne nous a pas donné les réponses. Et parfois, par sa grâce et sa bonté, comme Margaret a dit, quand nous regardons en arrière, et il dit que j'ai vu ce que Dieu a fait, les leçons qu'il m'a enseignées, et même si je sais que ma connaissance est limitée, il y a beaucoup de choses qui se passent, Et parfois, nous regardons en arrière et nous voyons des choses et nous ne pouvons même pas expliquer ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle c'est très important de comprendre ce que Job a dit. Qui est celui, il dit, quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. Le Nouveau Testament nous enseigne qu'au milieu de ces souffrances et de ces difficultés, dans le cœur de l'histoire de l'homme, il y a des souffrances imméritées qui empêchent également des bénédictions. Dans le Nouveau Testament, Dieu le Père nous a offert ça, son Fils juste. C'est comme Job ici qui a donné son Fils unique. Dieu a donné son Fils unique. Et la bonne nouvelle de la Bible, c'est que il y a cet homme juste, que Christ, qui a souffert injustement, d'une manière mystérieuse, pour les gens injustes comme vous et moi, qui peut expérimenter, pour que nous expérimentons la miséricorde. Dieu a fait souffrir cet homme qui est innocent pour que nous puissions avoir la justice de Dieu à travers lui. Quand l'apôtre Paul réfléchissait et parlait de ces choses, quand il réfléchissait à ce mystère de l'incarnation, de la crucifixion, de la résurrection, de la souffrance injuste de cet homme juste, il s'est retourné au livre de Job pour parler du langage nécessaire. Quand il dit dans Romains, dans le livre de Romains, il dit que la souffrance de l'homme, il a cité Job en disant que, il dit, qui a connu la pensée de Dieu et qui a connu ses conseils pour qu'on puisse amener celui qui a payé pour la gloire. Et vous comprenez cela? C'est ce que Job a commencé à dire. Il a dit que il y a les dettes pour lesquelles je ne peux pas payer. Il a encore cité de Dieu dans le verset 4, dans Job chapitre 42 verset 4, il dit, écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Il nous rappelait comment lui, il s'est retrouvé devant Dieu. Quand il a eu ses jours au tribunal, il pensait que Dieu allait répondre à ses questions, mais dans la réalité, il y avait beaucoup de choses que Job, pour lesquelles Job n'avait pas de réponse. Nous voyons que les perspectives de Job a changé par la parole de Dieu. Et comme il écoutait la parole de Dieu, et comme il avait rencontré Dieu et sa révélation, il savait que Dieu est souverain au-dessus de toutes choses, et il connaissait également les limitations de ses compréhensions. Et il dit que ces choses doivent être vraies. La Bible nous enseigne la souveraineté de Dieu sur nos vies. Il est le Créateur, nous sommes la créature. Il est souverain, nous ne sommes pas souverains. Il connaît les limitations de la compréhension des hommes. Vous savez que la Bible nous enseigne qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre, les choses que Dieu n'a pas révélées. La Bible nous donne les révélations que nous pouvons comprendre, les choses, les mystères glorieux de son Fils. Quand nous voyons Job ici, qui exprime dans le verset 5 ce qu'il dit, il déclare la vérité absolue de Dieu, la limitation de la compréhension de l'homme, et il donne l'exemple ici. Il donne un exemple ici dans sa pensée, parce qu'il savait qu'il doit écouter Dieu dans le verset 4. Il doit écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Maintenant, il a compris mieux la posture qu'il devait avoir s'il comprend, s'il écoute Dieu, l'attention de Dieu sur la parole de Dieu. Il dit qu'il connaît, il a compris qu'il est l'étudiant, l'apprenant et Dieu est l'enseignant. C'est lui qui doit s'asseoir pour écouter, pour suivre le jugement de Dieu. Il dit que c'est Dieu avant, il pensait que c'est Dieu qui doit répondre à ces questions. Mais maintenant, il dit dans le verset 5, mon oreille avait entendu parler de toi. Jésus a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Maintenant, ce que Job dit, il dit, je comprends cela, mon oreille avait entendu parler de toi. Je suis attentif à la parole de Dieu. Je suis humble, je suis assis humblement pour que Dieu m'enseigne et non que moi, je pose des questions à Dieu pour qu'il réponde. Dans le verset 6, pourquoi, qu'est-ce que nous voyons d'autre? Dans le verset 6, Dieu, Job a une vie de repentance. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Le formateur, il parle de ce sujet de la repentance et il parle de cela dans le contexte où les erreurs, même les théologiens de l'Église catholique romaine qui disent des choses très importantes concernant la vie chrétienne, et notre Seigneur, notre Maître Jésus-Christ, quand il dit « Repentez-vous », il veut dire que la vie de tous les croyants sur la terre doit être constamment une vie de repentance. Job essaie de donner l'exemple ici. Il ne veut pas être seulement un auditeur de la parole, il veut être un pratiquant de la parole pour démontrer son attitude qui a changé. Et Dieu dit que, ah, j'ai péché. Job reconnaît que sa posture, il a parlé de comment il a souffert dans cette période et ce qu'il doit espérer de Dieu. Nous devons comprendre que nous devons continuer par croître dans la sagesse, dans la grâce, même au milieu, au temps de nos souffrances. Nous devons croître dans notre attitude constante de repentance en écoutant la parole de Dieu. Nous sommes changés, transformés par là. Et quand nous venons dans le livre de Job et que nous voyons l'étude de Job et que nous faisons une étude biographique, Job n'avait pas toujours appris la raison pour laquelle il a souffert. Nous savons plus de la raison pour laquelle Job a souffert, mais lui-même il ne sait pas. Nous avons vu au début de ce passage Satan qui est apparu devant Dieu et qu'il a posé la question. Job ne savait pas tout cela, mais Job avait quelques réponses que plus que nous. Job ne savait pas pourquoi il a souffert. Nous croyons que nous aussi, nous pouvons nous retrouver dans cette situation particulière où nous ne savons même pas pourquoi nous souffrons. Ça peut faire partie de l'aspect mystérieux, de la partie mystérieuse de la souffrance de l'homme. La Bible nous enseigne que Christ a souffert une fois pour le péché. Il a souffert, lui juste, pour les injustes. Il est venu mourir pour que nous puissions avoir la vie. Et l'apôtre Paul continue à parler de la résurrection de Jésus en nous donnant l'enseignement clair concernant la souffrance. Quand nous continuons pas à croître, pas grandir, il dit la puissance qu'il a ressuscité Jésus d'entre les morts, qu'il a ressuscité d'entre les morts, s'il demeure en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts va vous donner la vie à votre corps mortel à travers son esprit qui habite en vous. Notre Dieu est souverain sur toutes choses dans nos vies et nous ne pouvons pas comprendre tout ce que nous subissons comme souffrance, mais nous avons cette grande promesse que celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est lui qui œuvre dans nos corps mortels, et quel que soit ce que nous subissons comme souffrance, il va nous donner la vie à notre corps mortel pour nous donner la gloire éternelle. Nous allons prier ensemble. Père, nous te disons merci pour ces paroles. Nous avons pensé souvent que nous connaissons beaucoup de choses, mais nous prions que ton esprit continue par nous enseigner. Nous te disons merci parce que au milieu de nos faiblesses et de nos souffrances, tu nous invites toujours à communier avec toi sur ta table et t'adorer en esprit et en vérité. Nous prions que tu sois avec nous et nous réaffirmons notre confiance en toi comme nous regardons en Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Nous demandons cela au nom de Jésus. Amen.